Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va nous expliquer comment le pouvoir catholique a peu à peu éliminé la religion protestante. Quelle musique avez-vous choisie pour cette émission?
Mais c'est pour cette raison justement que nous écouterons aujourd'hui un Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier apparaît plus cultivé que Lully, mais son génie se manifeste surtout dans la musique sacrée. Ce Te Deum est donc un chant d'action de grâce, musique brillante, triomphante, à la gloire d'un Dieu tout-puissant. C'est pour cette raison que je l'ai choisi, puisqu'aussi bien, nous allons assister au triomphe de l'Église catholique, qui s'imposera peu à peu, de gré ou de force, à toute la société saint-antoninoise. De ce Te Deum, vous entendrez plusieurs extraits, dont le premier ne vous est pas inconnu, et je vous laisse le plaisir de la surprise.
Monsieur Julien, après le siège de 1622, les protestants ont perdu le contrôle de Saint-Antonin, mais ils ont quand même gardé le droit d'exercer librement leur religion.
Oui, puisque après la capitulation du 24 juin 1622 et ses douloureuses conséquences, les protestants de Saint-Antonin pouvaient espérer conserver, à défaut des libertés et de l'indépendance communale, la liberté de conscience. Et cela sur la foi d'une importante déclaration de Louis XIII, qui affirmait notamment, dès le mois de juillet 1622: Je vous laisse en votre liberté, sachant que rien ne doit être plus libre que les consciences. Je ne souffrirai que nul de mes sujets de la religion prétendue réformée soit oppressé ni violenté dans sa foi. Nobles et belles paroles, n'est-ce pas? Mais paroles seulement. La sincérité du jeune roi ne peut être mise en doute, et il est sûr qu'il n'a jamais pris aucune mesure portant atteinte directe à la liberté de conscience des protestants. Mais, nous le savons, la liberté n'est réelle, aujourd'hui comme hier, que si aucune entrave n'est apportée à son expression. Il est vrai aussi que les conditions d'expression et de profession d'une philosophie, d'une idéologie, d'une foi ne sont jamais équitables et que sont évidemment favorisés ceux qui professent une foi ou des idées conformes à celles des hommes au pouvoir. De Saint-Antonin, maître de la ville avant 1622, avaient tiré avantage eux-mêmes de leur pouvoir. Bien que l'édit de Nantes ait proclamé la liberté de conscience pour les catholiques et le libre exercice de leur culte, ces derniers, les catholiques, avaient connu bien des difficultés dans l'exercice de leur religion qui, de ce fait, n'avait pu progresser. Après 1622, la situation s'inverse. Dès janvier 1623, un arrêt du Parlement décide que désormais, les postes de premier et de second consul, c'est-à-dire les plus importants, seront occupés par des catholiques exclusivement. Et cette décision deviendra définitive. En plus, le conseil de ville, c'est-à-dire l'assemblée des gens désignés par les consuls pour être des conseillers permanents, devra être obligatoirement mi-parti. Sur les 24, 12 catholiques, 12 protestants. Enfin, le 22 août 1624, Louis XIII crée l'office de capitaine châtelain, juge civil et criminel en la judicature royale de Saint-Antonin. Ce personnage, ce haut personnage, a autorité et préséance sur les consuls qui engageront un très long mais vain procès contre cette atteinte considérable aux coutumes séculaires et aux privilèges de la ville.
Oui, M. Julien, on a tout de même l'impression que ces consuls catholiques font passer l'indépendance de Saint-Antonin avant le triomphe de leur religion.
C'est exact. C'est exact. Et cela est frappant de voir que même la rivalité qui pouvait opposer les catholiques aux protestants n'a pas rendu les catholiques absolument ignorants de la cause de la ville. Tout au long du XVIIe siècle et même pendant le XVIIIe, ces consuls catholiques qui bénéficient des avantages du pouvoir s'efforceront de défendre, tant qu'ils le pourront, en vain je l'ai dit, les anciennes coutumes et les privilèges de la ville. Ce poste éminent de premier magistrat, c'est le premier poste de la ville, il sera occupé, évidemment, par un catholique. Mais quel catholique ? Il s'agit de Jean-Philippe Dupin, le petit-fils de Salvat Dupin, l'un de ceux-là, comme c'est triste, qui en 1561 introduisirent le calvinisme à Saint-Antonin. Mais Jean-Philippe Dupin a opportunément abjuré le protestantisme dès l'année 1623. Et c'est à lui qu'est conférée la plus haute dignité dans notre ville, non pas un catholique de souche authentique, mais un protestant renégat. On comprend que cela soit un coup dur pour les fidèles de la religion prétendue réformée, les RPR, comme on écrivait alors. Et ça, que voulez-vous, je ne suis pour rien. On les désignait par ce sigle, RPR, dont les plus convaincus vont vérifier jour après jour la fragilité de la foi de nombre de leurs coreligionnaires, parmi les plus en vue, bien sûr. Hélas, hier comme aujourd'hui, se vérifier cette amère évidence que les appétits d'honneur et d'intérêt matériel ne s'embarrassent pas de scrupules de conscience, et qu'il est possible de bien vivre en reniant sa foi.
Oui, Monsieur Julien, certains protestants deviennent donc opportunément catholiques.
Oui, le moins qu'on puisse dire.
On peut douter un peu de la sincérité de leur foi, de leur conviction religieuse. Mais est-ce que ces nouveaux catholiques restent pas un peu secrètement attachés à la cause de leurs anciens amis?
Il y a de tout parmi eux. Je ne crois pas que Jean-Philippe Dupin se soit senti tellement mal à l'aise dans son reniement. Il a été particulièrement servile à l'égard du pouvoir et il fera exécuter avec une légèreté de conscience tout à fait étonnante toutes les mesures contre les protestants. Il ne semble pas qu'il ait beaucoup protégé ses anciens frères de religion. Mais il est juste de dire que parmi de nombreux protestants convertis à la religion catholique, Ils avaient gardé cela, ils ont gardé toujours une certaine sympathie pour leur coreligionnaire, et qu'on a pu constater, on peut le voir à travers les délibérations du Conseil de ville, qu'ils s'efforcent toujours de les protéger contre les coups du pouvoir. Il faut quand même le reconnaître. Mais de toute façon, désormais, le pouvoir dans la ville appartient aux catholiques. Et parmi ceux-là, les plus enragés vont en profiter à chaque occasion. Notamment dans l'affaire du temple, tenez. Vous savez, puisque nous l'avons dit, que dès le 24 juillet 1622, les protestants avaient été privés de leur temple, donné aux catholiques, c'est le temple qui se trouvait à l'emplacement de l'église actuelle, et les catholiques n'avaient plus d'église, donc Louis XIII leur donne le temple des protestants. On avait autorisé alors les protestants à se réunir dans le local du poids public, qui se trouvait à l'emplacement actuel du musée, du jardin du musée. C'était un local incommode et peu approprié au culte. En outre, et vous le comprenez bien, il était impossible d'utiliser les poids, les mesures de la ville lorsqu'il y avait des assemblées religieuses. Et elles se tenaient au moins le dimanche, bon, ça peut passer, mais aussi plusieurs fois par semaine. Aussi très vite, les protestants cherchent-ils un autre local. Ils achètent alors deux maisons appartenant aux nommés Aymar et Dardenne, deux protestants, pour y construire un nouveau temple plus décent et plus attrayant. C'est l'emplacement, ce temple se trouvait, qu'ils vont construire, se trouvait à l'emplacement occupé par les maisons actuelles d'Elvert et Jolibois. On a longtemps épilogué sur l'emplacement de ce temple. Hein. Je voudrais bien préciser ici qu'un document récent que je viens de découvrir dans un registre notarié du notaire Plagavin ne laisse aucun doute sur cet emplacement. C'est là qu'a été le temple protestant quand les protestants ont décidé en 1640 environ de construire un nouveau temple. Cette installation qui témoigne de la vitalité de l'église protestante est comme une provocation pour les catholiques et en particulier pour l'acerbe et autoritaire et insupportable Sébastien des Grèzes, qui avait été nommé prieur mage par le pape Urbain VIII le 3 juin 1626. Alors en 1642, il intente un procès aux membres du consistoire protestant, s'appuyant pour cela sur les dispositions curieuses de l'arrêté du Conseil d'État du 24 juillet 1642 qui, je cite, « fait défense aux religionnaires d'exercer leur culte dans des temples qui ne seraient pas éloignés de 100 pas des églises catholiques ». On dira que c'était là une sage mesure en une époque d'âpre rivalité religieuse, génératrice de querelles et d'affrontements. Enfin voilà, le prieur mage intente un procès contre le consistoire protestant parce que le temple n'est pas à 100 pas. Alors on nomme des experts et des contre-experts. On évalue, on arpente la distance litigieuse. 130 pas entre le temple et la porte principale de l'église trouvent les experts protestants. Nous sommes dans les normes de l'arrêt du Conseil d'État. Pardon, rétorquent les contre-experts catholiques. Il n'y a que 50 pas du temple au bâtiment de l'église. Ce temple est trop proche de l'église et il faut le démolir. En outre, les protestants troublent les offices catholiques avec le son de leurs cloches et le chant de leurs psaumes qu'ils crient à tue-tête. Alors voyez, curieux procès pour une distance, hein. 130 pas disent les uns, 50 pas disent les autres.
C'est étonnant ça, monsieur Julien. Les unités de mesure étaient donc si imprécises que ça ou...
Eh bien là, on a mesuré en pas. Non, elles n'étaient pas imprécises. Il y avait une mesure de longueur très précise qui était la canne. Mais je suppose que là, comme il fallait traverser les maisons, on faisait à peu près. Si tu vois bien là, bon, pour les catholiques, le dos de leur église, le chevet de leur église, était à peu près au chevet actuel de l'église actuelle. Alors tu vois, pour aller à la maison de mademoiselle Delvert et Jolibois, là c'est enclos, il fallait mesurer en ligne droite. Alors on prenait du chevet de l'église, on passait par la place de Peyrolles, à travers la maison de Donadieu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire les pas, ne me le demande pas. Et les protestants, ils ont mesuré jusqu'à la porte de l'église catholique, qui allait se trouver à peu près à l'emplacement de la porte de l'église actuelle. Mais il y avait la canne, qui était la mesure de longueur courante et régulière. Pourquoi on a mesuré en pas? Peut-être justement pour que ce ne soit pas juste. Enfin voilà, ce quoi qu'il en soit, le procès durera des années. Il sera clos seulement en 1682 par un arrêt du Parlement de Toulouse qui, faisant droit aux réquisitions des catholiques, ordonne la démolition de ce temple. Décidément, le pouvoir a bien changé de camp depuis que Louis XIII est mort en 1642. C'est sous le règne de Louis XIV que, ici comme ailleurs, l'Église protestante va vivre ses jours les plus difficiles, avant d'être condamnée à mort par l'édit de Fontainebleau d'octobre 1685. Édit qui se veut et est, effectivement, la conclusion d'une longue suite de pressions, de vexations, d'injustices et de persécutions exercées conjointement par le pouvoir royal et les responsables de l'Église catholique, évêques, jésuites et chanoines locaux à partir de 1661. Jusque-là, malgré les prédications multipliées et la persuasive incitation des prédicants capucins introduits à Saint-Antonin après le siège, malgré l'exemple donné par certains nobles et grands bourgeois qui ont renié la religion protestante, les abjurations de calvinistes avaient été rares, hormis pendant les mois qui suivirent le siège. Il faudra arriver à 1652 pour relever dans les registres d'état civil un acte comme celui-ci, qui est une des premières abjurations. Le 11 janvier 1652 fut enseveli dans le cimetière de Notre-Dame de Peyrègues Catherine Picoune, dite la Grande Peyre, veuve à Pierre Bourdarios, ayant reçu tous les sacrements de l'Église et renoncé à la religion prétendue réformée dans laquelle elle avait demeuré 50 ans et mourut, âgée de 85 ans ou environ, dans la bonne religion catholique, apostolique et romaine, signée Sabi, vicaire. Évidemment, on peut s'interroger sur la sincérité de cette abjuration obtenue par ce prêtre, d'une agonisante de 85 ans. Cela ne laisse pas de doute sur l'activité du clergé catholique, à l'affût de toute occasion de sauver une âme hérétique. Mais, après tout, n'est-ce pas là son devoir et sa mission à ce clergé? À partir de 1661, le combat est mené au grand jour, au plan politique comme au plan religieux. 1661, c'est le début du règne personnel de Louis XIV, comme tout le monde le sait. 1661, c'est l'implantation à Saint-Antonin des chanoines de Sainte-Geneviève, en remplacement des Augustins qui, depuis 6 siècles, vivaient ici. Tirant la leçon de la réforme qui l'a fortement ébranlée, l'Église catholique vient d'achever ce qu'on appelle la contre-réforme, par la réorganisation de ses institutions et l'épuration de son clergé, qu'elle veut maintenant exemplaire. Et les chanoines augustins, qui depuis 1622, après le siège, sont revenus à Saint-Antonin, qui vivent à la bourgeoise, ils ne mènent pas, eux, une vie exemplaire. Ils se sont un peu trop sécularisés. La venue des Génovéfains reconstitue le chapitre régulier où les chanoines doivent et vont vivre en communauté sous la rude autorité du prieur mage Sébastien des Grèzes, dont il faut bien dire, entre parenthèses, qu'il ne pratiquait pas l'austérité de vie qu'il exigeait des autres chanoines. En 1661, enfin, ouvre le calendrier de la persécution contre les protestants. En novembre 1662, Sa Majesté, je cite, a ordonné et ordonne que les enterrements des morts de la RPR ne pourront être faits que dès le matin à la pointe du jour ou le soir à l'entrée de la nuit, sans qu'il y assiste plus grand nombre que 10 personnes. 1665, logement de nombreuses compagnies en quartiers divers et foule des habitants, et cela dès lors deviendra pratique annuelle. Les protestants sont les premières victimes de ce logement des gens de guerre. 1666, sur l'intervention des chanoines, les élections consulaires sont reportées au 1er janvier, contrairement à la coutume. Les consuls sont nommés par l'intendant cette année-là, et le prieur mage, le prieur curé, le vicaire, tout chanoine, le supérieur des carmes, entrent au conseil politique dont ils deviendront désormais des membres permanents. 1668, Il est interdit aux créanciers protestants d'exercer des poursuites contre leurs débiteurs. Ça, c'est une mesure sévère, car les prêteurs d'argent dans notre ville étaient essentiellement des protestants. 1669. Éducation catholique obligatoire pour tous les enfants trouvés, et ce qui est plus grave, pour les orphelins protestants. Cette même année, interdiction de vente de la viande à quiconque les jours d'abstinence. Cette même année, les protestants ne pourront être ni greffiers, ni tabellions des consuls, ce qui justifiera la conversion du notaire Delpech, secrétaire de la communauté. Les ministres protestants qui se convertiront seront exemptés de taille. Autrement dit, c'est un anoblissement pour eux. Dès lors, sous l'action conjuguée des ecclésiastiques et des émissaires du pouvoir royal, que sont l'intendant, son subdélégué, le capitaine Châtelain, par la multiplication des pressions de toute nature, sous l'influence non négligeable des innombrables prédications des capucins, des missions ordonnées par l'évêque de Rodez, les moins forts vont céder. Et des abjurations vont apparaître dès 1674 dans les registres d'état civil. Rares d'abord, leur nombre va s'accroître. Il y en aura 14 en 1678, 12 en 1679, dont 9 de protestants étrangers à la ville. C'est drôle ça. Il y en aura 40 en 1680, dont 2 de protestants de Villefranche. Ces abjurations d'étrangers sont bien le signe de la honte qui s'attachait à cet acte de reniement. Oh, les Saint-Antoninois aussi, certains d'entre eux de même, iront abjurer ailleurs, à Cahors comme Anne Villeneuve, ou à Albi comme l'apothicaire Jean Villeneuve, ou à Corde comme Grazalière Marchand.
Monsieur Julien, quand il détenait le pouvoir, les protestants l'avaient souvent utilisé contre les catholiques. Maintenant, c'est l'inverse, avec peut-être encore plus d'ardeur. Vous nous aviez décrit la détermination des protestants, et on peut s'étonner maintenant de tant de passivité de leur part.
Oui et non, c'est étonnant et non. D'abord... Ne pas être passif, ça veut dire être actif, c'est-à-dire s'opposer. Et comment s'opposer à un pouvoir que nous dirions aujourd'hui totalitaire, qui a une police très au courant de tout, contre la force, du moins momentanément. Les idées ne peuvent pas grand-chose, ni la détermination morale. Et puis, il nous fait bon parler à nous, qui vivons aujourd'hui dans un siècle ou plutôt, dans un pays où règne la démocratie. Mais nous avons l'exemple dans le monde contemporain de situations semblables où des idées ne peuvent pas s'exprimer si ce n'est des religions, ce qui revient au même. Et puis il n'y a pas si longtemps en France où des hommes ont été persécutés autant que l'ont été les protestants au XVIIe siècle. Je veux parler de l'occupation allemande et du régime pétainiste, sans qu'aucun Français, ou sans que la majorité des Français, ait fait quelque chose pour empêcher ces persécutions. Je crois que cette passivité des protestants est bien compréhensible. Quant aux protestants qui étaient rentrés dans le giron de l'Église catholique et qu'on appelle les nouveaux convertis, le moins qu'on puisse dire est qu'ils étaient mal à l'aise. Ils ont perdu l'estime et la confiance de leurs anciens coreligionnaires, sans pour autant, et nous le verrons dans la suite de notre chronique, sans pour autant avoir acquis la confiance des anciens catholiques qui sont restés et qui resteront soupçonneux à leur égard. Donc, en 1685, vous l'avez entendu, on enregistre 40 abjurations dans les registres d'état civil. La pression monte. 1681, par un édit royal du 15 janvier, les protestants sont exclus de toute fonction municipale, que ce soit le consulat ou le conseil politique. Ils ne sont plus rien dans l'administration de la cité, car tel est le plaisir du roi. 1684, les mesures répressives s'accentuent et se multiplient. Les officiers conseillers secrétaires du roi protestant devront se défaire de leurs charges au profit des catholiques. Interdiction de faire des prières en dehors des temples, à peine de 3 000 livres d'amende. Interdiction aux ministres d'exercer plus de 3 ans dans les mêmes lieux. Les consistoires protestants ne pourront se réunir que tous les 15 jours. Et attention, et en présence du juge royal, c'est l'espionnage. Interdiction de nommer des juges protestants. Interdiction du culte protestant dans les localités où il y a moins de 10 familles. Et ce sera le cas de Verfeil et de la Guépie, petite cité où les quelques protestants encore fidèles devront venir à Saint-Antonin faire enregistrer la naissance de leurs enfants ou la mort de leurs parents. Cette année-là, 1684, on enregistrera 29 conversions et on assistera aussi au début de l'émigration de certains protestants de notre ville devant l'étau qui se resserre. 4 compagnies sont logées en quartier d'hiver et des mesures sont prises contre ceux qui ont émigré puisque un édit royal décrète que les fugitifs du royaume seront condamnés à la peine de mort. 1685, enfin, nouvelle mesure répressive, fermeture des librairies et des imprimeries protestantes. Il ne doit plus y avoir de clercs, d'avocats, de médecins protestants. Or, il y avait encore ici 3 médecins protestants sur 5. La moitié des biens des fugitifs sera attribuée aux dénonciateurs. Voilà, c'est la pratique honteuse de la délation. Enfin, le 22 août, arrivent les régiments de dragons. C'est le début des dragonnades. 4 compagnies sont logées sur les RPR. Les mesures décisives vont être prises et nous le verrons à la prochaine émission.